Mathias Sénard.
Exploration des moteurs, des engrenages de la littérature d'aujourd'hui. Écoutons le concert des bielles de la fiction, les pistons du récit. Tour à tour autrice, traducteur, mais aussi dessinatrice ou scénariste de bande dessinée nous font visiter leur salle des machines. Nous ouvrent le capot de leurs livres et nous expliquent comment tels et ils plongent les mains dans le cambouis. De quelle façon on met à la voile, ou même, de temps en temps, à la rame. Comme disait Blaise Cendrars à bord du paquebot Normandie, je les verrai à l'œuvre dans les fonds, les soutiers, les huileurs, les graisseurs, les mécanos, tous les gars de la machine. Bonjour, chers amis et chères amies de la littérature et de la salle des machines. Aujourd'hui, nous recevons Marie Cosnay, écrivaine et traductrice, qui nous emportera au château incertain d'If et dans des grottes mythiques et enchantées. Ensuite, ce sont les métamorphoses d'Ovide, dans la traduction de la même Marie Cosnay, qui sera notre caillou dans les poches. Puis j'aurai la joie de recevoir Hervé Le Tellier, dont le roman L'Anomalie laisse un léger goût d'effroi venu d'un autre monde. Et enfin, c'est Lou Darsan, autrice de L'Arrachée Belle, qui lancera son message à la salle des machines.
Où donc me menez-vous ?
Vous le saurez tout à l'heure.
Mais encore ?
Il nous est interdit de vous donner aucune explication.
Voici l'île Ratonneau et son phare. Et voici l'ange des Catalans. Oh, Mercedes. Mon amour. Camarade.
Quoi encore?
Au nom de votre conscience, et de par votre qualité de soldat, je vous adjure d'avoir pitié de moi et de me répondre. Je suis le capitaine Dantès, bon et loyal français, quoique accusé de je ne sais quelle trahison. Où me menez-vous ? Et dites-le ! Et foi de marin, je me rangerai à mon devoir et me résignerai à mon sort.
Vous êtes marseillais et marin, et vous me demandez où nous allons ?
Ah oui, car sur mon honneur, je l'ignore.
Ne vous en doutez-vous pas ?
Aucunement.
Ce n'est pas possible.
Et je vous le jure, sur ce que j'ai de plus sacré au monde. Répondez-moi donc de grâce.
Et la consigne ? Qu'est-ce que vous en faites, vous, un marin ?
Mais la consigne ne vous défend pas de m'apprendre ce que je saurai dans 10 minutes, ou dans une demi-heure, ou dans une heure, peut-être.
Ah, dame, c'est vrai.
Alors ? Je vous le demande comme si vous étiez mon ami. Regardez, je ne veux ni me révolter, ni fuir. D'ailleurs, je ne le puis. Où allons-nous ?
À moins que vous n'ayez un bandeau sur les yeux, ou que vous ne soyez jamais sorti du port de Marseille, vous devez cependant deviner où vous allez.
Non !
Regardez autour de vous.
Oh mon Dieu ! Le château d'If.
Bonjour Marie Cosnay. Vous reconnaissez bien sûr ce passage où il est question de l'effrayant château d'If dans l'adaptation radiophonique de Jean-Jacques Vierne au début des années 80. Alexandre Dumas était-il présent dans votre propre château d'If ?
Il a été présent dans l'enfance. Il a été infiniment présent, Edmond Dantès, dans mon enfance et dans mon désir et mon goût de l'aventure.
Marie Cosnay, vous êtes bayonnaise, écrivaine et traductrice. Vous êtes l'autrice d'une 20aine de livres, textes poétiques, essais, romans et récits, dont Cordélia la guerre, Aquero ou If, paru au début de l'année 2020 aux éditions de L'Ogre. Vous poursuivez aussi une œuvre de traductrice du latin, la partie visible de cet iceberg étant rien de moins que les métamorphoses d'Ovide, qui parurent initialement aussi aux éditions de L'Ogre et viennent d'être reprises au livre de poche. Traduction qui vous a valu le prix Nelly Sachs et le prix Bernard Hopfner. Mais commençons par ce récit, If, qui est donc un voyage, une enquête qui commence à Marseille.
Oui, alors de Marseille, à partir de Marseille, j'ai voulu suivre les traces d'un homme qui s'appelait Mohamed Belaouel, un homme que je n'ai pas connu, mais que les gens qui l'ont connu ont connu sous un autre nom. Alors, évidemment, une histoire prise dans l'histoire entre la France et l'Algérie. Il se trouve, pour la petite histoire, que cet homme était le grand-père de mon fils, et j'ai tenté d'aller à la recherche impossible, bien sûr, hein, de cette histoire impossible, parce que muette, parce que silencieuse. Voilà, alors après, comment je m'y prends dans le texte If, c'est évidemment en partant du château d'If, d'Edmond Dantès et de la fiction.
Mais un If, c'est aussi un arbre qui se tient debout. On se souvient de la fin du texte de Pierre Michon, La vie de Joseph Roulin, cette adresse quasi hugolienne. Et vous, If, qui mourrez comme des hommes.
Oui, et c'est exactement ça, c'est ce qui se tient debout. C'est ce qui se tient debout aussi souvent dans les cimetières. C'est un des arbres qui, pour moi en tout cas, dit le deuil. Et c'est donc aussi ce château et cette île qui est aux abords de Marseille, au début de la Méditerranée, de ce qui s'ouvre, et donc oui, qui se tient debout entre deux mers, oui. Enfin, entre deux pays.
Et If, c'est un roman d'enquête. Et on vous entend comme enquêtrice, en tout cas, il y a cette présence. Est-ce que ça correspond à une enquête physique avant d'être un récit et une enquête dans le livre?
Oui, c'est une enquête un peu particulière parce que c'est une enquête empêchée, à plusieurs endroits empêchée, parce que le silence familial, comme on l'a compris, c'est une histoire entre la France et l'Algérie, c'est une histoire de quelqu'un qui a changé son nom, c'est bien parce que son nom sous lequel il est né, il préférait qu'on ne le prononce pas. C'est donc une enquête que ses enfants ont empêchée et n'ont pas souhaité aussi. Donc c'est une enquête que je me suis autorisée à mener avec plus ou moins bonne conscience. Hein, donc c'est pour ça qu'elle est complexe. Elle a été une enquête géographique et physique assez tard, c'est-à-dire je suis allée autour de cette histoire et des archives qui pouvaient la raconter un an ou deux ans après le décès de la personne qui pouvait être vraiment gênée par les recherches, en fait. Donc assez tard dans mon histoire.
Et le château d'If, c'est aussi une prison, peut-être une prison qui vient de l'enfance, du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, mais néanmoins aussi une prison terrifiante.
Oui, j'avais deux histoires avec la prison. J'ai une histoire, évidemment, comme tout le monde, l'histoire de la fiction du château d'If, et qui... Celle-là, prison, elle est, malgré tout, bien que prison, la prison dont le mort va sortir vivant. Alors, elle est extraordinaire comme prison. C'est vraiment la prison de l'aventure, de l'histoire possible, de l'histoire à raconter, puis encore à raconter. Bon, la fiction, quoi. Et puis, j'ai un autre château d'If, en quelque sorte, parce que j'ai une histoire qu'on m'a racontée. Et ce qui est un peu extraordinaire dans ce récit, c'est que personne se souvient me l'avoir raconté, mais pourtant je suis sûre que j'ai reçu cette histoire. C'est un rapatrié d'Algérie, en fait, en 62, qui voit son propre nom dans la prison du château d'If, dans laquelle il est emprisonné le temps d'être transféré ailleurs. Pourquoi il voit son nom griffé sur la paroi, en fait, de la cellule dans laquelle il est? Parce que, au moment de la Commune marseillaise, les communards ont été enfermés au château d'If, bon ça c'est historique et c'est vérifié, avant d'être envoyés en déportation. Et il fait partie d'une famille dont une partie a été engagée dans la commune et une autre partie est allée tenter l'aventure de petits colons en Algérie. Et donc c'était comment le retour de cette histoire dans une cellule du château d'If pouvait, oui ou non, se confirmer. Bon, je ne l'ai pas confirmé. Hein. Les archives sont restées muettes là-dessus, notamment parce qu'en 62, ça faisait longtemps que le château d'If n'était plus une prison d'État. Cela dit, il y a malgré tout la possibilité que, non pas d'une manière systématique, mais une fois, une cellule ait été ouverte pour enfermer des gens qui, ayant appartenu à l'OAS, devaient être emprisonnés plus tard en France. Voilà. Donc je n'ai rien confirmé, mais rien infirmé non plus.
Et la violence, et notamment la violence de guerre ou ses conséquences, me semble aussi toujours sourdre, enfin souvent sourdre dans vos récits.
Oui, dans If, je ne me suis pas autorisée à non plus raconter quelque chose qui, pour moi, à la place où je suis, était très difficile à raconter, à savoir la guerre d'indépendance algérienne. Cela dit, la violence, elle est peut-être ailleurs, dans ses conséquences, oui, en effet, et dans les conséquences intimes pour une famille, pour une lignée, pour une famille qui s'oublie comme famille. Peut-être elle est davantage là, la violence, dans If, dans ce qu'elle fabrique dans les psychismes des gens qui, après, tentent de savoir qui ils sont. Et ça dure d'une génération à une autre.
Et justement, cette enquête et ce récit qui est If, pour qui l'écrivez-vous, en fin de compte?
Ah, c'est une question difficile. Hein. Enfin, je sais exactement la réponse, mais c'est justement pour ça qu'elle est difficile. Ah, je l'écris pour le petit-fils de cet homme que je cherche, qui est mon fils. Et du coup, c'est difficile de répondre parce que c'est une réponse intime et que je passe mon temps à mettre l'intime un peu, pas le plus loin possible, mais enfin.
Et justement, est-ce que peut-être l'aspect brouillé un peu de cette enquête et de ce voyage, en tout cas, est pas lié au fait que c'est le très intime qu'on touche là?
Oui, c'est lié au fait que voilà, je commence avec Dantès, parce que Dantès, vraiment, on peut en parler. Non seulement on peut en parler, mais on doit en parler. Puis il y a une histoire de fils et de père aussi dans le Conte de Monte Cristo, c'est que ça, c'est quand même comment les fils payent pour leur père. Et c'est quoi l'enchaînement d'une histoire et le tragique de l'enchaînement des histoires, ça s'arrête jamais. Et ça, d'une manière théorique, d'une manière épique, enfin, du côté de l'histoire, qu'elle soit avec un petit H ou un grand, on peut y aller. Après, quand ça atteint un fils, sa propre vie, le plus cher, ben c'est pas que c'est difficile, c'est un peu interdit, dans le sens où ça coupe la parole. Mais ça leur a tellement coupé la parole à tous, l'histoire leur a tellement brisé la possibilité de dire et d'être une famille, de savoir qu'ils sont frères, sœurs, oncles, cousins, etc., que finalement, malgré les empêchements et les interdits, j'ai choisi.
Marie Cosnet, vous mentionnez cette parole brisée, interdite. Vous êtes une écrivaine engagée, et notamment pour l'accueil des migrants et des réfugiés. Est-ce que c'est pour vous un pendant de la création littéraire? Comment est-ce que l'action ou l'engagement influence vos textes?
Ça aussi, c'est difficile pour moi de répondre, parce que l'engagement en question, je ne le pense pas au départ comme une possibilité littéraire. Peut-être heureusement, je me dis pas.
Non, mais bien sûr, j'imagine bien que vous vous dites pas, ah, ça va faire de beaux livres.
Oui, voilà. C'est-à-dire que ni même de beaux livres, ni même un reportage. Réellement, ça ne part pas de là, en fait. Et donc, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, et peut-être encore maintenant, c'était des terrains dans ma vie qui sont complètement étrangers et loin. C'est-à-dire, il y a la journée, là, ma matinée, à tenter d'organiser, quelques petites choses pour des gens, concrètement, et puis des moments de temps complètement consacrés à autre chose. Alors, évidemment que les deux se rencontrent, et sans doute que le texte ou le plaisir d'écrire ou le besoin d'écrire, je sais pas comment le nommer, et le besoin d'être sur ce terrain-là parce que pressentant que c'est une question extrêmement importante de notre temps et qu'on est aussi dans un très très grand risque de voir quelque chose basculer là, sans doute que les deux besoins, les deux désirs ou les deux plaisirs sont pas si loin, mais je sais pas exactement où en fait. Il y a sans doute un terrain là entre le besoin d'écrire et celui d'être debout, hein, comme le LIF, devant cette question qui vient et qui va venir tout le long du XXIe siècle de plus en plus, sans doute que quelque chose est commun.
Et dans ces temps qui justement communiquent ou ne communiquent pas, le temps de traduire, alors, votre traduction des Métamorphoses d'Ovid reparaît en poche. Et pourquoi Ovid et ses métamorphoses?
Au départ, là aussi, ça commence comme, c'est pas une anecdote, mais enfin, c'est une sorte de régularité qu'on n'interroge pas forcément, quoique. C'est-à-dire que je suis prof à ce moment-là. Là, ça fait quelques années que je ne le suis plus, mais j'ai été prof longuement. Et j'ai des collégiens devant moi. Et avec ces collégiens, nous traduisons des extraits de textes que je leur propose. Et je vais assez facilement chercher chez Ovid parce que, toujours pareil, pour le goût des histoires, parce qu'il se passe plein de choses et qu'on aime ça. Enfin, moi, j'aime ça. Et puis, eux aussi, en réalité. Alors, on commençait comme ça. Ensuite, moi, je rentrais chez moi et puis j'avais un peu d'avance sur eux et je finissais les traductions qu'ils avaient commencées pour le cours suivant, les leur proposer et les leur lire. Et puis, je me suis prise au jeu complètement, c'est-à-dire que j'ai continué. Mais au départ, je dis souvent que j'ai passé 10 ans à traduire, mais c'est parce que c'était pas un projet clos. Enfin, j'avais pas le projet de traduire les Métamorphoses d'Ovide et puis de le publier, et puis on passe à autre chose. C'était vraiment un chemin. Ça accompagnait mon travail d'enseigner.
Et alors, je reprends ma question précédente. Est-ce que donc la traduction nourrit vos textes?
En effet, il y a quelque chose de commun entre la traduction, qui est du côté de la répétition, du refaire, de faire aussi, comment dire, quand j'ai le texte latin, que ce soit Ovide ou un autre, mais même Ovide, bon, maintenant, Ovide, il est un peu familier quand même, il est passé par là, mais même quand j'en étais au livre 14, à la fin, etc., il reste opaque, hein, c'est une langue qui est pas donnée comme ça, qui se laisse et qui se fait travailler de près. Et donc, c'est ce travail de lire extrêmement précisément, vers à vers, presque mot à mot. Et ça, c'est alors que par ailleurs, l'envie d'écrire ou le besoin d'être debout et de peut-être poser que les circulations et les passages de tous partout sont essentiels. Eh ben, ce travail de répétition et de labeur, en fait, de labeur un peu qui va pas de soi, complètement en contradiction et en tension, j'en ai besoin aussi.
Pour vous, qu'est-ce qui caractériserait la langue d'Ovide?
Alors, quelque chose qui à première vue serait extrêmement habile, rusé, brillant. De la même manière que ces personnages peuvent être à la fois sujet et objet de leur histoire. Bon, par exemple, chasseur pour Actéon, chassé. De la même manière, dans le texte, on retrouve cette possibilité d'inverser les places. Hein, donc l'objet ou le complément de lieu, etc., va reprendre une partie de la phrase qui était en position de sujet. Vous voyez, il travaille aussi beaucoup par chiasme, par reprise des termes d'un paragraphe à un autre. Dans tout ça, c'est assez observable facilement.
Quelque chose qui serait aussi donc de l'ordre de la métamorphose, en tout cas de la transformation du parallèle, du double.
Ah oui, c'est exactement ça. Quelque chose aussi, alors il travaille beaucoup par ellipse, il va rester pendant très très longtemps sur une description. Par exemple, chez Phaéton, la description du char du soleil, le magnifique char du soleil du père de Phaéton. Et puis, la métamorphose, qui est ce qu'on attend tous, peut avoir lieu en 4, 5, 6 vers assez rapidement. Ça aussi, c'est une façon de la précipiter et de jouer le mouvement.
Vous expliquez dans votre postface que pour vous, c'est vraiment un texte continu, hein, qu'il faut lire, ou qui peut se lire du moins d'une traite, et pas du tout comme on pourrait l'imaginer, quelque chose de fragmenté, comme un ensemble de récits.
Oui, c'est très très étonnant de voir qu'il y a une construction, qu'en effet c'est une construction très précise, puisqu'il commence de la Genèse, une sorte de cosmogonie de sa Genèse à lui, avec le déluge, etc., et ça s'achève sur Auguste, en fait. On a l'apothéose de Jules César et puis tout le temps d'Ovide lui-même. Donc il va jusqu'à son propre temps. Et il passe par les récits et les légendes grecques. Et puis après, à partir du livre 12, on est dans la guerre de Troie qu'il recommence. Avec tout un tas à l'intérieur de chaque champ de structures aussi. De mini-structures, de narrateurs enchâssés les uns aux autres. Et c'est étonnant de voir que lui qui prône l'inachèvement, le recommencement, la métempsychose à la fin, enfin le fait qu'on échappe toujours à ce dans quoi on est bloqué, dans la forme dans laquelle on est bloqué, malgré tout, la forme qu'il propose est une forme achevée. Il y a un début et une fin qui sont... Alors bien sûr, il le dit, sa voix continuera à chanter ses textes pour les générations à venir, mais la forme du poème, elle est close, elle est achevée.
Et quelle est votre histoire préférée, votre personnage préféré? Alors, celui de la traductrice, mais aussi celui de l'autrice que vous êtes.
Ah, j'adore Céix et Alcyone parce que c'est une tempête et une crue et la mer en folie, etc. Et je trouve que c'est un texte, puis une histoire d'amour malheureuse. Alors voilà, mais je pense que j'ai quand même un faible pour tout le récit autour de Médée. C'est au livre 7, on est au milieu du livre et il y a des scènes de magie, Médée magicienne. On la voit tourner sur elle plusieurs fois, prendre l'eau dans le fleuve, crier, etc. On la voit rajeunir quelqu'un, donc faire des magies qui touchent à la vie, à la mort. Et puis, bon, Médée, elle est le personnage qu'on connaît ailleurs. C'est une Médée parmi les autres. Bon, Ovide n'a pas, dans sa Médée à lui, intégré le fait qu'elle tuait ses enfants. Donc ça, c'est une Médée qu'on peut aimer sans honte. Et puis elle est impunie, elle finit par faire tout ce qu'elle fait là, elle coupe en morceaux un monsieur, et puis elle dit un poème, son poème se change en char, elle monte sur le char et elle vole encore. Elle vole sur le texte comme ça, elle survole et elle vole et elle se métamorphose pas. Elle échappe complètement à tout, c'est-à-dire qu'elle échappe aussi à ce qui est le propos du livre, la métamorphose. Elle échappe à la punition, qui est aussi quand même l'autre propos du livre. Donc c'est un personnage et c'est un passage plutôt de texte au sein des métamorphoses, au cœur de ce livre et au milieu qui est à interroger.
Merci beaucoup Marie Cosnet de nous avoir ouvert votre salle des machines.
Merci beaucoup.
Et comme on dit en latin, vale et protinus te videre. À bientôt.
À bientôt.
Médée, Jason, Niobé, Arachné, Orphée, Triptolème, Cyané et Arétuse, Énée et la Sibylle, ou encore Atalante et Nippomène. Les Métamorphoses d'Ovide sont un livre de noms. Un livre de personnages, une encyclopédie des transformations, de tout ce qui change. Le triste exilé de Thomis du Pont-Euxin y livre un catalogue de récits qui est à la fois un guide du monde antique et de ses mythes, mais aussi un catalogue des thèmes de la peinture, de la sculpture et de la poésie. Écoutons, dans la magnifique traduction de Marie Cosnet qui reparaît au livre de poche, le triste destin d'Adonis. Le courage tient tête au conseil. Un jour, les chiens qui ont suivi les traces sûres tirent de sa cachette un porc, et quand il est prêt à sortir de la forêt, Adonis, le jeune fils de Cinyras, le perce d'un coup oblique. Tout de suite, le sanglier furieux secoue de son groin courbé l'épieu teint de son sang. Le garçon tremble, cherche un lieu sûr, la bête le suit. Sous l'aine enfonce ses dents, là-bas presque mort sur le sable roux. Portée sur un char léger, la déesse de Cythère, par les airs, n'est pas arrivée à Chypre sur les ailes des cygnes qu'elle reconnaît le long gémissement du mourant. Vers lui, elle ramène ses oiseaux blancs. Lorsque du haut du ciel, elle voit le corps sans lame jeté dans le sang, elle saute, abîme son sein et ses cheveux, frappe sa poitrine de la paume de ses mains qui ne mérite pas ça, et plaint des destins. « Tout ne sera pas sous votre loi, dit-elle. Il restera le rappel de ma douleur, mon Adonis. Une image de ta mort, répétée chaque année, représentera mon deuil. Le sang est changé en fleurs. Toi, autrefois, Perséphone, tu pouvais transformer un corps de femme en menthe odorante. Et moi, j'exagère si je change le fils de Cinyras ? Elle parle ainsi. Elle arrose le sang d'un nectar parfumé. Dès qu'il est touché, il gonfle comme si des bulles translucides surgissaient de la boue brune. On attend à peine une heure, une fleur de même couleur naît. Les grenades, qui cachent sous l'écorce souple leurs grains, ont la même. Leur temps est bref. La fleur mal accrochée, fragile, d'une grande légèreté, le vent, qui lui donne son nom, la secoue.
France Culture, la salle des machines, Mathias Sénard.
Tout au long de son adolescence, dans la petite ville de Castle Rock, Stephen King avait beaucoup de mal avec les filles. Les girlfriends de Stephen ne faisaient pas long feu. Ainsi, quand il eut 15 ans, Stacy Trenton accepta de venir chez lui pour voir sa collection de bandes dessinées. Mais au bout de quelques minutes, elle s'enfuit en courant de la maison des King après être tombée nez à nez avec Church, leur chat mort-vivant. Effrayée, la petite traversa la rue sans regarder à gauche et mourut écrasée par un camion qui passait par là. Dramatique accident. Puis, ce fut au tour de Beverly Marsh. Un samedi après-midi, après une simple promenade en ville au bras de Stephen, la môme fut pourchassée dans les égouts par un clown aux yeux d'argent et avec des lames de rasoir à la place des dents. Néanmoins, Stephen persévéra et il parvint à convaincre Kerry White que la verdoyante campagne du Maine serait plus inoffensive. Mais avant qu'ils aient eu le temps de se rouler dans le foin, Cujo, le Saint-Bernard enragé, surgissait d'une grange abandonnée et dévorait la demoiselle. Et combien d'autres sont mortes d'un simple rhume ou étouffées par le chauffage déréglé d'une voiture d'occasion. Après chaque disparition, Stephen n'arrivait pas à dormir. Dehors, des corbeaux malotrus semblaient lui dire « jamais plus ». Stephen se tournait et se retournait dans son lit, trempé de sueur froide, puis il se levait rageusement, se servait un verre de whisky et se lançait dans l'ébauche littéraire de ses funestes visions.
Hervé Letellier, soyez le bienvenu dans la salle des machines. Que vous inspire cette biographie fantasmée de Stephen King par Colin et Mauduit ? Pourrait-on faire de même avec l'auteur de L'Anomalie ? Qu'est-ce que le fantastique pour vous ?
Le fantastique pour moi commence avec des livres que j'ai lus quand j'étais adolescent. Alors ça va du Orla en passant par Henry James et puis bien sûr tout ce qui s'apparente à la science-fiction. J'ai assez peu lu de véritables fantastiques dans le sens où les créations d'univers qui étaient totalement inventées m'intéressaient moins que des projections ou des expériences de pensée. J'aimais plus, si vous voulez, Demain les chiens que je n'aimais le Seigneur des Anneaux, même si je trouvais le Seigneur des Anneaux magnifique en termes de création d'univers. Mais c'était pas du tout le genre de livre que je lisais. Je lisais plus facilement Dune, par exemple, de Frank Herbert, même si je reconnais des parentés. J'étais pas porté sur l'heroic fantasy, mais beaucoup plus sur l'anticipation, sur l'imagination autour d'univers technique ou d'univers possible dans d'autres civilisations. Et pour moi, donc, le fantastique, c'est peut-être une chose qui appartient au 19e beaucoup plus qu'à mon univers personnel.
Hervé Letellier, vous êtes un homme de lettres, aujourd'hui président de l'ouvroir de littérature potentielle dont vous êtes membre depuis le début des années 90. Vous avez publié, bien sûr, dans les cahiers de Loulipo et vous avez développé une œuvre tentaculaire dans laquelle on trouve aussi bien des romans dits de genre que des traités savants. ou des textes inclassables et désopilants comme « Moi et François Mitterrand », correspondance loufoco-sérieuse parue en 2013. Vous êtes aussi un des exégètes et dépositaires de l'œuvre du philosophe oral Jean-Baptiste Botulle. Vous avez été bien sûr un des incontournables papous, des papous dans la tête de France Culture. Et aujourd'hui, vous publiez en septembre « L'Anomalie », roman qui connaît un grand succès. Hervé Letellier, vous avez publié un roman noir de la série Le Poulpe, brillamment intitulé « La disparition de Pérec avec un K ». Est-ce que l'anomalie est pour vous un roman de genre ?
C'est une série de romans de genre. Je ne me cache pas d'avoir voulu commencer par « Provocation », par un chapitre assez court qui était un roman noir, inspiré à la fois de Manchette, de Chandler, enfin une forme littéraire qui est extrêmement balisée, dont je connais bien les codes et qui me paraissait une façon d'ouvrir un roman qui n'avait pas vocation justement à être du tout un roman policier d'une manière un peu originale. Et ensuite j'attaquais sur un roman sentimental, puis sur un roman introspectif, un roman d'anticipation. Donc j'étais plutôt dans une démarche qui est une démarche de tentative de fédération de différents genres au sein d'un même roman pour les fusionner ensuite. Mais j'aimais bien jouer avec les genres littéraires et j'avais d'ailleurs choisi des personnages qui tous, à leur manière, étaient en harmonie avec chacun des genres que j'avais choisi d'aborder. La référence que j'avais pour ce type de roman de genre, c'est évidemment, on s'en doute, puisque vous l'avez justement mentionné, je suis oulipien, c'était le roman d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur, qui est un roman, qui a changé de titre d'ailleurs, que Si une nuit d'hiver un voyageur, ce qui est plus conforme au titre italien. Si une nuit d'hiver un voyageur est un roman dans lequel Calvino commence des romans par dizaines, enfin une petite dizaine de romans, tous différents, tous de genre, et qu'il abandonne en cours de route, créant ce qu'on peut considérer une frustration pour le lecteur. Et j'aimais bien cette idée de ne pas frustrer mon propre lecteur, de lui apporter dans chacun de ces genres que je traitais une complétude, de ne jamais cesser d'être dans le roman noir quand je parlais de Blake, de ne jamais cesser d'être dans le roman sentimental lorsque je parlais d'un de mes personnages qui s'appelle André, enfin Blake étant le tueur et André un architecte vieillissant. Et à chaque fois que j'avais donc un personnage, d'être en harmonie avec ce qu'il représentait pour moi. Et j'aimais bien cette idée de ne pas justement avoir une démarche aussi esthétique que celle de Calvino. Moi, je voulais aborder aussi ce qui était une des dimensions du roman, qui était le fait de donner à chacun des lecteurs un plaisir de retrouver ces personnages au fur et à mesure que j'avançais de chapitre en chapitre avec des personnages aussi différents les uns des autres. Donc, à la question, est-ce que c'est un roman de genre ? Oui, mais il y a un S à genre, quoi.
Un roman de genre au pluriel, mais aussi peut-être pour ne pas trop dévoiler l'intrigue de l'anomalie, on pourrait prendre une analogie, c'est un peu comme dans les nouvelles fantastiques de Borges par exemple, qui partent d'un postulat et qui en tirent toutes les conséquences. Comme par exemple, l'homme atteint l'immortalité, qu'est-ce que ça changerait ? Ou le voyage dans le temps est possible ? Est-ce que c'est comme ça que vous avez conçu cette anomalie à partir d'une hypothèse qui tout d'un coup devenait possible ?
Oui, c'est absolument la même démarche. D'ailleurs, un des personnages s'appelle April, et à un moment donné, elle s'appelle donc April March. Et vous avez cité Borges, et dans une des nouvelles de fiction, l'un des romans imaginaires de Borges, dans fiction lui-même, s'appelle April March. Donc c'est pas tout à fait un hasard si j'ai cette référence-là. Borges, c'est un de mes auteurs préférés. Et évidemment, chez lui, il y a la volonté d'exhaustivité et d'aller au bout d'une logique qui est celle qu'il s'est imposée dans la définition de son projet d'écriture. Je pense par exemple au Ménard, dans lequel un personnage qui est Pierre Ménard recopie intégralement le Quichotte. C'est une idée que j'avais reprise dans Moi et François Mitterrand, puisque dans Moi et François Mitterrand, au lieu d'avoir un personnage qui recopie le Quichotte, dans lequel Borges fait le jeu de comparer le Quichotte et le Quichotte recopié par Pierre Ménard, avec une réception forcément très différente dans les deux cas, puisqu'il y a des siècles de différence et qu'il analyse la manière dont pouvait écrire Cervantes et la manière dont écrit Ménard, alors que c'est exactement le même texte. C'est à peu près l'idée que j'avais eue dans moi et François Mitterrand, parce que on a affaire à un personnage qui reçoit toujours la lettre type de la part de l'Élysée et qui chaque fois croit reconnaître une lettre qui lui est incroyablement adressée, incroyablement personnelle, à partir des mêmes mots. Cher monsieur, nous avons bien reçu votre lettre du temps. Et cette idée de la réception, qui était donc très présente chez Borges, c'est une idée que j'avais eu envie de reprendre de manière un peu farce dans une sortie qui s'appelait Moi et François Mitterrand. Alors, l'idée borgésienne de prendre un texte et de le pousser au bout de ses logiques narratives, oui, c'est une idée qui est assez forte dans l'anomalie, parce que, à mon avis, un des intérêts pour le lecteur, c'est de ne jamais laisser prise au fantastique tout à fait, mais essayer d'asseoir l'intégralité de l'intrigue sur une potentialité, sur une chose qui n'est pas tout à fait invraisemblable, qui est cette idée de la virtualité générale du monde, qui est une idée, crois-je, avoir vu récemment dans un article publié il y a même pas quelques semaines, qui aujourd'hui est acceptée à l'idée de 50%, c'est qu'il y a 50% de chance que la virtualité généralisée soit notre situation de fait. Et je trouve intéressant qu'une des dimensions du vertige que peut proposer un roman soit justement cette preuve scientifique possible, et qu'on ne soit jamais dans la dimension du superficiel que propose le fantastique. Enfin, il n'y a jamais de fantôme, c'est pas un conte de fées, c'est pas dans cette dimension-là que je souhaitais aller. Donc je voulais au bout des logiques qu'imposait la situation que je proposais au lecteur.
Oui, et cette virtualité du monde, elle est aussi double, triple et elle-même multiple, parce que évidemment, on est en train de lire un roman qui nous propose cette possibilité de la virtualité du monde comme étant une réalité, mais on le lit hein, dans un espace qui est bien sûr lui-même virtuel, dans lequel il y a aussi un livre qui s'appelle lui-même L'Anomalie.
Oui, j'aime bien cette idée. Je reconnais que c'est un classique chez l'Oulipien de mettre un livre dans le livre, et pas seulement chez nous d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs qui aiment faire ça. Moi j'aime cette idée, dès qu'on a un romancier, qu'il soit pris dans son travail, et que le travail du romancier étant de faire un roman, il y ait le roman du romancier dans le roman. Ça me semble être une logique inhérente au fait qu'on met un romancier dans un roman. Les faux monnayeurs de Gide appartiennent à ce type de situation dans lequel le roman est forcément dans le roman. À partir du moment où on décide d'avoir un certain nombre de personnages et qu'on leur attribue une fonction symbolique, et le fait d'être un auteur pour un personnage en est une, comme le fait d'être un tueur à gages, comme le fait d'être une avocate, comme le fait d'être un architecte, il faut que ces métiers qu'on donne s'incarnent. Et quoi de plus logique lorsqu'on a un auteur que de donner des éléments à son roman. Ce qui permet en plus évidemment d'avoir un décalage entre le texte du roman que le lecteur lit et le roman que lui propose l'un des personnages à lire, ce qui est différent. Et ça m'intéresse d'avoir ces niveaux différents de lecture proposés au lecteur, en plus de tous les effets de genre, de lui dire, voilà, en plus tu as un romancier dans ce roman, et ce roman que tu vas lire, qui est le roman du romancier, n'a rien à voir avec le roman qui t'est proposé de lire. C'est un roman qui est, je le définis un peu pour rire, comme du Jean Tkelevich sous LSD, mais c'est vrai que c'est un roman qui est truffé d'aphorismes, qui est riche en symbolique, dans lequel la métaphore est un peu omniprésente, ce qui n'est pas du tout ma tasse de thé, mais qui est une forme d'écriture avec laquelle j'aime bien jouer et que j'aime bien parfois lire, mais qui ne me vient pas naturellement. Donc le roman de Victor Misol, qui est donc L'Anomalie et qui se trouve dans L'Anomalie, est un de ces romans qui permettent aussi de le faire exister en tant que romancier. C'est très difficile pour moi d'imaginer un romancier dans un roman sans proposer au lecteur de voir ce que ce romancier écrit, puisqu'il y a autant de romans que de romanciers.
Oui, d'ailleurs, c'est une histoire absolument tragique. Ce roman a l'air lui-même absolument ridicule, et le pauvre a un destin assez terrible.
Oui, le destin de Misol est terrible. Le roman qu'il écrit a à la fois une dimension de ridicule, et en même temps, pour moi, c'est un pastiche. C'est-à-dire que il se trouve ressembler à des auteurs que, pour ma part, je n'aime pas trop et que je ne citerai pas, parce que bon, ça peut être des auteurs que beaucoup de gens aiment. Et d'ailleurs, il m'a bien semblé qu'une des critiques qui avait parlé de ce livre avait adoré ce livre intérieur, qui pour moi me semblait effectivement empreint de beaucoup de grandiosité et de joliesse, qui, moi, ne m'intéresse pas du tout comme type d'écriture. Et cette idée que parfois les écrivains connaissent avec un livre un destin qui n'est pas du tout celui auquel ils peuvent s'attendre, c'est dans la nature même de l'écriture d'un livre. Les livres n'ont pas du tout les destins que les auteurs imaginent. Alors comme en plus Misol, pour moi, est un auteur qui, tout autour du livre, joue un rôle dans... Comment dire? C'est un fil narratif, mais qui entoure tout le livre, qui me sert, en fait, dans une structure qui est une structure typiquement oulipienne que j'ai construite comme un Scooby-Doo. Le Scooby-Doo Misol, enfin, le fil Misol entoure tout le livre. Et donc, cette idée qu'il est embobinant, qu'il est une sorte de fil rotatif qui va finalement serrer toutes les histoires ensemble, ça m'intéressait que ce fil soit un fil un peu tordu, avec un fonctionnement à la fois d'un auteur dépressif, mais qui d'un seul coup ne le sera plus, il y a une sorte de deux Misol, quoi, un Misol d'avant et un Misol d'après, avec un Misol central qui, lui, va écrire une sorte de fulgurance. Donc, j'avais cette idée-là d'un personnage double. Et d'ailleurs, je l'ai composé à partir de beaucoup de gens existants. Il y a une partie de Misol qui, pour moi, s'apparente à des amis comme Édouard Levé ou Bernard Höffner, qui était un traducteur que j'aimais beaucoup, et d'autres amis qui, eux, sont bel et bien vivants et qui participent dans le shaker à la composition de ce personnage. Et Misol, pour moi, c'est ça. C'est un auteur qui est un de ces nombreux auteurs qui existent, qui travaillent sur de nombreux niveaux d'écriture et qui parfois connaissent le succès avec un livre qui à la fois leur ressemble et qui pour autant ne leur appartient pas complètement, qui les dépasse. J'aime bien cette idée que les auteurs font toujours des livres qui les dépassent un petit peu.
Revenons, si vous le voulez bien, à cette idée du Scooby-Doo qui me semble absolument fascinante. Qu'est-ce que c'est que cette structure en Scooby-Doo et ces fils de Scooby-Doo avec lesquels vous avez, grâce auxquels vous avez construit l'anomalie, Hervé Le Tellier?
Alors, le Scooby-Doo, c'est une idée de gamin, c'est-à-dire que on a des fils, et qu'est-ce qu'on fait avec des fils? On les tresse. Donc, moi, j'avais une idée, c'est que, comme je voulais ce roman avec des logiques de genre, avec des logiques de personnages extrêmement forts, et que ces personnages étaient complètement colorés de la même manière que le genre littéraire dans lequel ils baignaient, j'avais des fils de couleurs, si vous voulez, correspondant au genre et au personnage. Ces fils de couleurs, je voulais les tresser ensemble, et j'avais un fil noir, qui était mon fil de roman noir, avec mon personnage de Blake, qui était un fil tendu complètement central, comme un câble, qui est tendu du début du roman jusqu'à la fin du roman, et qui réapparaît par instant, un peu comme justement les câbles autour desquels tout s'organise. Et puis j'avais tous mes autres personnages, qui eux sont des couleurs, le rose sentimental, le bleu du roman, un peu d'introspection, enfin je m'étais mis des idées un peu de couleurs comme ça. Et puis j'avais un fil blanc qui lui était le fil qui lui entourait tout, et qui était le fil de Misol, qui allait raconter l'histoire... À la fin, on comprenait que c'était une possibilité de comprendre que le livre lui-même avait été écrit par Misol, même s'il avait écrit le premier livre aussi dans le livre. Et donc ces Scooby-Doo sont organisés comme une tresse, et il y a deux points de grand resserrement de ces Scooby-Doo qui me permettent d'avoir trois parties. Entre chacun de ces points, il y a une des parties qui s'organise. J'aimais aussi l'idée que chacune de ces parties porte des noms d'extraits de poèmes de Raymond Queneau. Plus noir que le ciel, etc., qui sont des extraits de Raymond Queneau qui donnaient, à mon avis, une unité à chacune des parties, avec la chanson du néant, qui était la troisième partie, qui était un peu plus noire, et qui disait quelque chose de ce que c'est que le vide et ce que c'est que l'inexistence. Même si, évidemment, c'est un jeu avec cette notion de vide et d'inexistence. Mais le Scooby-Doo est une forme assez naturelle pour les romanciers. C'est pas... Il se trouve que moi, j'ai vraiment constitué... d'une certaine manière, matériellement, le Scooby-Doo en dessin, pour voir à quoi ça pouvait ressembler, pour que je puisse m'appuyer dessus pour la narration. Mais fondamentalement, beaucoup de romans sont comme ça. Et la plupart de ces personnages, d'ailleurs, dans l'anomalie, n'interagissent pas nécessairement les uns avec les autres de manière forte. Ils ont tous leur destin individuel, et j'avais pas envie d'avoir un roman fleuve dans lequel, en plus, j'avais des interactions entre personnages. Donc je voulais que ces personnages tous est une caractéristique puissante, que leur destin soit à chaque fois très très bien différencié, très identifié, et simultanément, je ne souhaitais pas que les contacts entre eux soient trop forts pour troubler finalement le jeu de la tresse et pour en plus risquer de perdre le lecteur dans une histoire qui est quand même un peu, je dirais pas qu'elle est compliquée, mais l'enjeu principal pour moi était de ne jamais perdre mon lecteur. Donc l'idée de les faire en plus trop entrer en contact les uns avec les autres me paraissait un jeu dangereux, fictionnellement parlant.
Donc c'est un roman cousu de fil blanc.
Voilà, c'est un roman cousu de fil blanc, voilà, exactement. Mais les couleurs, ça m'intéresse parce que, évidemment, dans les romans, on a un peu inconsciemment une coloration, une teinte. J'aime l'idée que lorsqu'on se fixe une coloration à une thématique, à un genre, ça nous permet de travailler plus en intensité le genre. Par exemple, le personnage du soldat, pour moi, évidemment, appartient à l'univers de la guerre. La guerre appartient à un univers qui est plutôt sanglant, kaki, et j'avais envie de cette couleur qui m'aidait à imaginer en permanence les situations. Alors je ne dis pas pour autant que le roman est un système entièrement, en tout cas l'anomalie n'est pas entièrement basée sur un système de couleurs, mais c'est vrai que les tresses constituées par les fils narratifs, ça m'intéressait énormément. Le système de ce que j'appelle le Scooby-Doo permet de réfléchir à ce qu'on peut faire avec de nombreux personnages et aux limites de ce qu'on peut avoir en termes de système narratif pour ne pas perdre un lecteur et simultanément pour lui proposer une diversité de situations, pas maximale mais, et pas exhaustive, mais en tout cas d'une très très grande diversité. Et c'est vraiment ce que j'avais envie d'avoir. D'ailleurs, j'avais d'une certaine façon aussi travaillé les personnages de manière à ce que la diversité la plus grande soit présente. Les couleurs de peau, les âges, les genres des personnages, leur sexualité. J'avais une jeune femme noire avocate, j'avais mon sexagénaire architecte blanc, la monteuse de cinéma d'une 25 ans. Et donc j'évoluais au sein de cet univers qui était un univers de grande diversité. Évidemment, j'ai des deuils parce que au début, j'avais plus de personnages encore que ça, et puis j'ai décidé d'en éliminer pour des raisons vraiment narratives, fictionnelles. On ne peut pas aller à l'infini dans ce système. Mais c'est vrai que lorsqu'on a constitué un cheptel d'une vingtaine de personnages pour en garder que 10 ou 11, on regrette un petit peu. Donc j'ai réussi à néanmoins ramener dans une diversité de 10 à 11 l'intégralité de mes vins que je voulais traiter.
Ces personnages sont aussi extrêmement caractérisés, c'est-à-dire que on sait, on voit en tout cas à l'œuvre pour chacun leur métier, leur activité. Par exemple, un mathématicien, forcément, vous nous expliquez, en tout cas, il parle d'algèbre d'une façon extrêmement précise. On voit le métier du pilote de ligne, celui du tueur à gages. Est-ce qu'il y a une grosse documentation précise derrière l'anomalie ?
Oui, il y a une grosse documentation. Il y a une grosse validation aussi, parce que lorsqu'on travaille sur des sujets aussi compliqués que le montage cinéma, on demande à un ami monteur de vérifier si on n'a pas dit des bêtises. Et j'ai fait valider sur trois domaines que je connaissais très mal, qui étaient la religion, enfin toutes les religions, parce que j'avais un chapitre consacré au débat religieux sur la situation, et où j'ai fait valider par des spécialistes de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme, des questions qui tournent autour de la création divine. Et l'air de rien, j'ai beaucoup appris sur cette question, que je pensais être beaucoup plus simple qu'elle ne l'est en réalité. J'avais une deuxième partie consacrée à l'âme, que j'ai supprimée, mais qui me servira un jour. Qu'est-ce que c'est que l'âme humaine ? Donc je fais valider, oui, et je travaille beaucoup en me documentant. Sur le chanteur nigérian, par exemple, sur Slim Boy, qui chante une musique dont je n'avais absolument pas connaissance, qui est l'afropop nigériane, je me suis pas mal documenté. À un moment donné, même, j'aime bien raconter cette histoire parce que ça me donnait l'impression d'être ultra compétent. J'étais dans un taxi, le chauffeur écoutait de la musique nigériane. Et à ce moment précis où j'ai pris ce taxi, j'étais très compétent. Ça devait faire 15 jours que j'écoutais que de la musique nigériane. J'ai pu lui dire qui c'était, avec qui il avait joué à ce moment-là. Et je dois dire que le chauffeur de taxi m'a regardé d'un air totalement halluciné parce que franchement, le mec de 60 balais qui connaît un petit peu de choses à la musique nigériane, blanc en plus, on ne doit pas être très très nombreux. Donc ça l'avait étonné. Non, il y a un travail de documentation, mais je pense que ça fait partie d'une nécessité de la littérature que de s'imposer, de créer du réel avec des choses qui existent vraiment, quoi. Lorsque Mei Wen est présente dans le roman parce que sa monteuse préférée est l'un des personnages, ça m'importe aussi que non seulement on ait des métiers qui sont extrêmement caractérisés, mais qu'on ait les univers de ces métiers qui soient présents. Ça m'intéresse qu'on ait Vincent Cassel qui apparaît dans un cadrage et que ça soit dans un film d'Audiard. Donc je veux que lorsque, surtout dans un roman qui est un roman qui peut paraître d'anticipation, je veux que mes personnages soient suffisamment denses, suffisamment incarnés pour que, y compris le monde autour d'eux, existe. Donc je dois prendre en considération dans le politique la présence de Macron, la présence d'un Trump qui n'a pas été réélu par chance, etc. Ça fait partie pour moi de la création de monde passe pas par autre chose qu'un peu d'historicité et beaucoup de langage.
C'est un roman de la globalisation, hein, où même la pandémie fait une apparition.
Je dois avouer et confesser même que j'avais le coronavirus comme l'une des nombreuses hypothèses des protocoles, mais que je l'ai un peu développé, puisque j'ai remis le texte le 15 janvier, et puis les corrections ont continué jusqu'au 15 mars. Et donc j'ai un peu fait rentrer dans le texte le début des confinements et le début de ce que j'imaginais être l'année 2020. Et puis c'est vrai que c'est un roman global parce que j'avais envie de mettre la planète entière dedans. Alors c'est absolument pas possible, évidemment, là aussi pour des raisons d'exhaustivité. Mais en revanche, j'avais envie d'avoir l'Europe, j'avais envie d'avoir l'Amérique, j'avais envie d'avoir l'Inde, la Chine, l'Afrique. Trois continents qui vont devenir des continents cruciaux dans les années qui viennent et dans les siècles qui viennent, si on survit. Et je voulais un roman planétaire pour qu'on voyage. Donc oui, moi j'aime bien cette idée que ce roman puisse être aussi un voyage dans la planète telle qu'elle se fait et telle qu'elle se défait aujourd'hui. Ça me semblait être une nécessité, même par rapport au projet du roman, qui était un roman de la planète, quoi. Et je pouvais pas faire ça entre Paris et Pantin. Ça me paraissait pas possible. Il me fallait quelque chose d'ambitieux géographiquement pour que ça réponde au côté un peu vertigineux de l'hypothèse qui est proposée. Il fallait quelque chose qui se passe dans le monde entier, avec des personnages issus de partout.
Un roman réellement vertigineux du monde entier. Merci beaucoup Hervé Le Tellier et longue vie à l'Anomalie.
Merci beaucoup.
Je rappelle que votre roman est paru aux éditions Gallimard. On se souvient qu'autrefois, dans les paquebots et les cargos, de magnifiques transmetteurs d'ordre en cuivre faisaient résonner les instructions de la passerelle jusqu'aux entrailles du navire. Comme chaque semaine en fin d'émission, un message parvient jusqu'à notre salle des machines pour partager une expérience d'écriture. Aujourd'hui, c'est Lou Darsan, dont le roman L'Arrachée Belle paraît aux éditions de la Contre-Allée.
Il a fallu jeter sur le papier toutes les pensées qui encombraient l'esprit. Croire que pour trouver une ligne claire, je devais me débarrasser de ces phrases qui tournaient en boucle, avec la vision de mes jambes dans la baignoire qui occultait le reste. Il fallait que cela soit la première phrase pour entamer le voyage. J'ai plongé au plus profond de moi pour en remonter des fragments, me remémorer la sensation du soleil et de la marche pour les donner à cette femme que j'ai jetée sur les routes. Pour la déshabiller, il a fallu que je retrouve le goût du sel, la caresse du vent, la griffure des ronces. Je lui ai donné un corps qui est proche du mien, mais je ne lui ai pas donné mon histoire. Elle a dû s'en construire une. Je ne savais pas d'où elle partait, ni où elle allait. Quand elle a commencé à danser sous la montagne, j'ai cherché ce qu'elle y abandonnait. Je l'ai dotée d'un appartement chauffé, d'une baignoire où passer des heures, d'un compagnon. J'ai vite compris pourquoi elle les avait quittés, mais j'ai mis du temps à comprendre comment. Parce que la réponse était simple. Par un soir de grand vent, qui efface tout. J'ai essayé de la suivre. Parfois, elle m'a perdue. Elle a continué seule. J'avais du mal à la voir, à la comprendre. Je lui ai appris à nager pour qu'elle puisse continuer, même si la terre s'arrêtait. Les 150 pages d'un beau papier bouffant où elle existe hors de mes pensées modificatrices ne la circonscrivent pas. C'est un support pour qu'elle se déploie et vous atteigne.
C'était la salle des machines. Un grand merci à Céline Leclerc, à Agnès Catou, notre réalisatrice, avec Alexandre Dang à la technique aujourd'hui. Dimanche prochain reviendra bien vite, mais d'ici là, réécoutez les épisodes précédents sur franceculture.fr ou podcastez la salle des machines sur l'application de Radio France.